Cosé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Ritza Marom Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Cosé Kilti. Nous poursuivons avec plaisir avec notre série d'émissions au Canada. Pour cette sortie, nous sommes au Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, le CIDICA, situé au cœur du Vieux-Montréal. Nous allons discuter avec Franz Wolter, fondateur de ce centre en 1983 et son actuel directeur.
Cosé Kilti sur RFI. C'est le samedi à 3h30 de l'après-midi, le dimanche à 1h10 et le soir à 8h30.
Bonsoir Franz Wolter.
Bonsoir.
Franz, à Montréal, vous êtes un homme, je dirais, qui est très impliqué dans la vie socio-culturelle. À côté du CIDICA que vous dirigez, vous vous engagez à l'Afro-Musée comme président de son conseil d'administration et comme au centre de création danse Nyata Nyata. Vous avez fait des études universitaires en histoire et en sciences politiques à la FLASCO au Chili et à l'Université de Montréal, puis à l'UQAM. Vous avez été également professeur d'université au Chili, à l'UQAM, à l'UDEM, comme à l'Université d'État d'Haïti. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur l'histoire et la culture haïtienne et vous avez publié plusieurs ouvrages comme Une brève histoire des communautés noires au Canada, Le problème de l'habitat en Haïti, Pouvoir noir en Haïti. Franz Wolter, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne œuvre depuis 41 ans, notamment à la vulgarisation des œuvres et de la pensée haïtienne dans le monde. En 1983, quand vous avez créé ce centre, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire?
Bon, d'abord, nous étions en exil. Et il fallait quelque part, je dirais, protéger le patrimoine haïtien. On ne savait pas, ce patrimoine était menacé, il n'y avait pas accès à la documentation pour des chercheurs ou des doctorants ou des étudiants qui voulaient travailler sur Haïti. Donc, on a décidé avec un collègue, d'ailleurs, il est l'actuel président du conseil d'administration, Wilks Léonel Jacques, qui était aussi enseignant à l'UQAM et plus tard enseignant au cégep de Gatineau en Outaouais. Donc, on a réuni plusieurs autres personnes, dont Viviane Duchesne, dont des gens qui appartenaient à l'époque au Centre de recherche Caraïbes qui allait fermer. Et on a créé ce centre, je dirais, dans une volonté à la fois de préservation de la documentation haïtienne, d'avoir un espace de débat, de réflexion sur Haïti, mais aussi sur la Caraïbe, mais aussi sur les Afro-Canadiens. On n'a jamais vu tout cela comme segmenté. Et en même temps, ce centre organisait des expositions. Là, on est dans la salle, dans notre salle d'exposition. C'est une exposition montée avec, justement, quelqu'un comme Kessler Bien-Aimé. On a un peintre là qui est Franz Clerville. Et il y a la conjointe de Bien-Aimé, Rose, qui expose aussi ici. Donc, c'est un centre où demain, on aura une autre exposition et d'ethnographie. On a eu des expositions sur des photos du vaudou, on a des expositions sur la parole des jeunes des quartiers marginalisés, Haïti, France, Québec et Brésil. Donc, le centre intervient à plusieurs niveaux. Et on a aussi toute la partie d'information sur Haïti pour contrebalancer, je dirais, un narratif où, quand on parle d'Haïti, c'est toujours une sorte de voyeurisme qui guide la plupart des journalistes. Donc, on a j'ai une émission quotidienne à la radio CEPAM. On intervient des fois sur Radio-Canada pour contrebalancer, je dirais, les informations déformées sur Haïti. Donc, voilà. Et ce centre créé à l'époque de notre exil sous Duvalier est devenu plus tard un centre beaucoup plus important puisque nous avons un bureau à Paris et un bureau en Floride.
En fait, le travail que vous faites concrètement, c'est préserver la documentation sur Haïti, mais aussi sur les Noirs en général.
Oui, mais surtout sur Haïti, pour une raison très particulière, c'est que la documentation sur les Afro-Canadiens, elle est quand même disponibles dans les grandes bibliothèques universitaires canadiennes, dans les bibliothèques, à la Bibliothèque nationale du Québec ou Bibliothèque nationale de l'Ontario ou du Canada. Par contre, il y a un problème très sérieux, c'est-à-dire, les bibliothèques en Haïti, je parle des bibliothèques comme la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne ou celle des prêtres de Saint-Martial, ont des lacunes très graves concernant la bibliographie contemporaine haïtienne. Et nous, c'est peut-être là qu'on a un apport important, puisque l'on préserve l'essentiel de la bibliographie haïtienne. Et là, comme vous avez dû le remarquer, il y a des étudiants en doctorants, des étudiants en maîtrise qui viennent parce qu'ils trouvent l'essentiel de la documentation dans une bibliothèque avec plus de 30 000 volumes, avec aussi des archives, dont des archives, par exemple, d'écrivains comme Georges Anglade. On a l'archive complète de Georges Anglade, de Max d'Orsainville. On a des archives d'historiens comme Schiller Thébault. Donc, on a conservé et on conserve encore une documentation qui est en train d'être numérisée et qui pourrait être disponible dans nos bases de données pour tous les Haïtiens, où qu'ils soient. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site, vous inscrire, c'est gratuit, consulter, puisque nous sommes un organisme non gouvernemental, un organisme, sans but lucratif. Et ça fait 41 ans qu'on fonctionne, qu'on donne des services qui sont tous gratuits à la population haïtienne de partout dans le monde.
Et quand vous parlez d'archives, c'est en fait des livres, mais c'est aussi des archives sonores, des archives audiovisuelles.
Tout à fait. Nous avons par exemple une très grande collection, c'est près de 40 heures d'archives visuelles sur Port-au-Prince qui ont été filmées et enregistrées entre 1999 et 2000, avec des responsables dans les bidonvilles, des urbanistes, des historiens, et nous donne, je dirais, peut-être une vision de Port-au-Prince qui n'est pas simplement celle de chercheurs, mais qui est celle aussi de la population. On a des entrevues de marchandes, c'est toute une partie qui est nos histoires orales. On a le même problème, par exemple, on a constitué un fonds aussi d'archives d'histoire orale avec quelques réfugiés politiques qui sont venus depuis 1958 ici. Donc on a un fonds de 40 entrevues en profondeur de plusieurs heures. On a des archives d'écrivains. Donc si vous voulez, c'est-à-dire il y a à la fois des archives qui sont des papiers personnels que les gens ont déposés ici, mais aussi des archives d'entrevues que nous avons faites pour préserver des mémoires qui risquent de s'estomper, de disparaître. Et ce qui est important aussi, et qu'il faut comprendre, c'est que nous avons aussi une énorme photothèque. Plus de 40 000 photos qui concernent les communautés haïtiennes de Cuba, de France, du Canada, des États-Unis. Des photos, par exemple, aussi du 19e siècle haïtien qui sont pratiquement introuvables, sauf quelques-unes qui sont dans des familles privées. Nous avons, par exemple, un album qui est peut-être le second album de photographie fait en 1869. Enfin, l'album a été publié en 69, mais il a dû être photographié en 67 sur Haïti. Donc on a des photos uniques, par exemple du palais colonial qui a sauté sous Salnave. Donc personne n'a jamais vu ce palais. Et moi, ça a été une surprise de découvrir dans cet album que nous avons récupéré en France. Nous avons par exemple toutes les archives de Cleveland Chase qui nous a cédé ses archives, enfin, qui concerne le musée d'art haïtien. Nous avons, par exemple, des archives photographiques qui est la collection de Jean-Marie Drault, qui avait été cédée à André Haise, ancien directeur de l'Institut français en Haïti, qui nous les a léguées. Donc, on a des collections uniques, ce qui implique que des gens viennent de partout, tous les jours, des États-Unis, du Canada, de France, de Suisse, pour consulter, et même d'Haïti, où des fois les gens nous consultent sur Internet en disant, écoutez, je fais un livre, je cherche une photo, est-ce que vous avez une photo? Je crois que même l'Institut français nous avait consultés pour leur 50e anniversaire parce qu'on avait des photos que eux n'avaient pas.
En fait, c'est un travail très intéressant. On peut se demander comment parvenez-vous à trouver toutes ces archives puisque on sait combien comment c'est difficile en Haïti de retrouver des traces.
Bon, d'abord parce que moi, j'ai développé des rapports avec un certain nombre de responsables, d'écrivains, d'historiens de toute la diaspora, puisque nous publions aussi, depuis les 3 dernières années, une revue d'histoire haïtienne. C'est une revue académique, et donc il y a tout un réseau, et on sollicite tout le monde. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu plus facile de consulter un certain nombre de gens, de récupérer tout ce qui est menacé en Haïti même, et qui, on le fait dans la vision qu'un matin donné, ces archives devraient revenir en Haïti, parce que, par exemple, je prends l'exemple des productions de livres. Ça, c'est pour la bibliothèque. Mais les livres qui sont publiés sur Haïti, il y a des éditeurs en Haïti. Quelques-uns dans le monde hispanique, très peu en République dominicaine, Cuba ou le Mexique. Au Brésil maintenant, on publie de temps en temps des livres en portugais. Nous avons même tout un travail sur Jacques Roumain en japonais. Nous avons même collaboré avec une revue qui a publié une revue sur la littérature haïtienne en polonais. Nous avons, mais les grands producteurs de livres sur Haïti, livres académiques, romans, poésie, c'est le Canada, les États-Unis et la France. Donc, nous essayons d'avoir cette bibliographie haïtienne qui est dispersée un peu partout.
Le CIDICAR organise aussi des événements. Vous en avez parlé tout à l'heure. Là, on a une exposition. Et parlez-nous des différents événements qu'a déjà organisé le centre.
Écoutez, on a organisé peut-être plus d'une centaine d'événements un peu partout. On a eu cette par exemple, sur les écrivains noirs du Canada, nous avons sur les écrivains haïtiens de Montréal, nous avons sur l'histoire sociale du Rhum, nous avons sur l'histoire d'Haïti, qu'on a fait à la Grande Bibliothèque, nous avons fait une exposition sur Haïti littéraire. Là, on a une exposition qui débutera le 5 septembre à la Galerie de l'Université Concordia, sur les écrivains de l'exil, ceux qui sont arrivés au Québec dans les années 65. Les Anthony Phelps, Serge Le Gagneur, Gérard Étienne, Garif Klan. Donc, cette exposition va durer, et avec surtout, même avec des tableaux de Davertige. Donc, le centre organise, je dirais, tous les mois, des expositions. Ça peut être comme cette exposition que tu visites actuellement, celle qui est une exposition faite dans le cadre du Festival du Souvenir. Mais on a aussi des activités entre le 21 et le 31 mars, depuis 25 ans, sur la semaine d'action contre le racisme. Et là, c'est 88 événements dans toute la province. Cette année, c'était sur le racisme anti-autochtone. Donc on avait les 11 premières nations qui ont participé au colloque. Une exposition qui a eu lieu ici qui s'appelle Feu Sacré, organisée par les femmes autochtones du Québec. On a eu des musiciens, on a tous les ans avec nos partenaires de la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, un concert classique, comme on a des concerts de jazz. On a eu l'année dernière aussi un comédien haïtien, Youyou, qui a présenté un spectacle. Nous avons eu aussi des spectacles, par exemple, sur Paroles de femmes, avec la comédienne Michèle Marcelin-Voltaire. Donc, on collabore aussi avec, on a un partenariat avec tous les organismes haïtiens. Le samedi, on était à la Journée du Livre, on est les co-organisateurs avec le Centre Narivé et avec Mémoire d'Encrier, dirigé par Rodney Saint-Éloi. Donc, on a essayé de développer, je dirais, des rapports harmonieux avec la plupart des organismes majeurs de la société haïtienne, comme la Maison d'Haïti, le Centre Narivé, le Bureau de la Communauté haïtienne ou la SDJ. Donc, cette partie, c'est pour toucher un grand public. Parce que des fois, On a eu des expositions, par exemple, à la bibliothèque Webster, à la bibliothèque de l'Université du Québec, et même à Toronto ou en France. Ben, ça a touché plusieurs milliers de gens qui ne viendraient pas nécessairement visiter notre galerie. Mais on va surtout trouver des expositions dans les écoles. Par exemple, on a cette exposition qui s'est faite qui s'appelle « Caricature pour changer le monde ». C'est les grands caricaturistes du monde. Enfin, c'est 72 caricatures qui sont exposées, qui ont été exposées cette année. C'est à Matapédia, en région éloignée du Québec, pour sensibiliser les gens à la problématique du racisme. Donc voilà un peu ce... on est à la fois dans des activités universitaires, dans des activités communautaires, on s'adresse essentiellement aux jeunes, et on a donc des activités comme la revue qui s'adresse à un public universitaire.
Vous l'avez en fait effleuré tout à l'heure, et si on veut avoir accès aux documentations du centre, comment on peut procéder ?
Bon, d'abord, vous allez simplement sur le site www.sidica.com, Sidica, c'est SIDIHCA.com, et puis bon, vous vous inscrivez, puis bon, et si vous avez de la difficulté, vous nous contactez, puis bon, vous avez accès. C'est des centaines de gens qui se sont inscrits, ils peuvent voir ce que nous avons, et puis des fois, quand il n'y a pas de problème de droit d'auteur ou de droit, eh ben, on va numériser la documentation pour eux, ou des fois les gens font une recherche de photographie parce qu'ils veulent illustrer un livre, ils veulent, ou du moins simplement savoir qui est qui. Donc on a par exemple toute une série de photographies sur les notables ou sur la paysannerie haïtienne. Parlant de photographie, on a fait l'acquisition d'un millier de photographies d'un fonds qui était le fonds Huxley. Francis Huxley était le neveu d'Aldous Huxley, le grand écrivain britannique, et qui avait fait plus d'un millier de photos en Haïti entre 1957-58. On a fait l'acquisition de ce fonds. On a plusieurs fonds ainsi. Par exemple, je dois remercier Mme Marie-Lucie Chancy, qui avant son décès, nous a fait un don de 500 photographies qui ont été numérisées. Ses enfants ont accès à cela, ses petits-enfants aussi. Donc, plusieurs membres, Carole Sassine qui est en Haïti, nous a fait un don de photographie de sa famille. Donc, nous sollicitons un peu tout le monde parce qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques, vous n'avez pas besoin de conserver la photo. C'est aussi de la chimie. Donc, il faut des conditions idéales. Je remercie aussi, par exemple, Evelyne Magron, la veuve de l'ambassadeur Guy Alexandre. Elle nous a fait fond de tout le fond de Guy Alexandre pendant tout son séjour en République dominicaine. Nous avons donc des fois des dons comme ça, la Maison d'Haïti, donc, qui permet de disposer de ressources audiovisuelles. Et c'est ainsi que, par exemple, nous avons été des consultants pour le Musée de la Civilisation de Québec. Et bien, c'est ainsi que des photos ou des catalogues ont pu arriver au musée pour 10 ans. Donc, on collabore avec les institutions publiques, les institutions privées. On a des ententes avec, par exemple, Archives Montréal, qui est un groupe privé qui travaille essentiellement sur les arts et les artistes à Montréal, mais les artistes aussi afro-descendants.
C'est beaucoup de documentation et tout ça, c'est en libre accès. Le public n'aura à rien payer pour avoir accès à tous ces documents.
C'est en libre accès quand il n'y a pas de problème de droit. S'il y a des problèmes de droit, quelqu'un peut le consulter. Mais il faudrait référer, par exemple, si un photographe contemporain nous a laissé un fonds, eh bien, il faudra demander l'autorisation. Et cette autorisation va varier. Parce que s'il s'agit d'un travail, je dirais, d'un objectif sans but lucratif, évidemment, il n'y aura pas à payer. Bon, s'il s'agit d'un magazine de mode, on est dans un autre univers, là.
Vous faites ce travail pendant que vous êtes loin d'Haïti, même si vous portez le pays dans votre cœur. Et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à sauvegarder la mémoire de ce peuple ?
Ben parce que je pense que cette mémoire est menacée. Je prendrai une phrase, je dis, quelqu'un m'a dit, à votre âge, vous continuez encore dans cette à vous mobiliser pour Haïti. Je dis oui, mais si je le fais, c'est parce qu'Haïti va mal. C'est-à-dire, vous ne demanderez pas, par exemple, à un Jamaïcain d'aller se mobiliser pour monter des archives jamaïcaines ici, parce que c'est le travail que fait la Bibliothèque nationale de la Jamaïque, ou que font les University of West Indies. Mais nous avons des institutions qui sont très fragiles, des institutions qui ne font pas ce travail, et donc, quelque part, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et Montréal avait l'avantage, c'est-à-dire d'avoir à la fois, puisque nous avons un institut créole ici, moi j'avais l'avantage de peut-être de parler espagnol, anglais, portugais, donc d'avoir accès à cette information multiple qu'il y a sur Haïti. Donc de dire, il fallait d'abord préserver ces collections, ces livres, ces archives, puisque il n'y a personne qui le fait. Donc ce qui fait que ces archives, elles sont disponibles pour le pays. Parce que, en dehors des livres, mais par exemple tous ces rapports gouvernementaux, ben nous avons des milliers de rapports gouvernementaux depuis plus de 70 ans qui sont conservés, qu'on numérise, on a les revues, les journaux. Bon, par exemple, dans cette exposition, je viens de découvrir une petite revue littéraire, Semences, dont on n'avait pas de numéro. J'avais les numéros de Rond-Point qui parlaient d'Haïti littéraire, mais je n'avais pas Semences. Et on a trouvé quelqu'un qui nous dit « Ah, moi j'en ai un, il va nous les prêter pour l'exposition, mais après, il dit « Je peux vous les céder, au moins pour les numériser. »
Est-ce que vous avez un message pour les jeunes?
Oui, je pense que c'est important à la fois de lire, à la fois de conserver cette mémoire haïtienne. Nous avons une mémoire unique, c'est-à-dire, mais en même temps, nous devons nous ouvrir au monde. C'est-à-dire, par exemple, quand on a fait cette revue, elle est publiée en plusieurs langues, et on a tenu à ce qu'il y ait des articles académiques en créole. Moi, je suis membre aussi de... Il y a un institut créole qui a été créé récemment, mais en même temps, il y a, je dirais, des centres un peu partout. Je suis lié à ce qui se passe à New York, à ce qui se passe à Miami, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère, je dirais, des dinosaures. Et donc, on peut, avec les moyens techniques, communiquer un peu partout. Par exemple, nous avons un projet de formation avec des micro-entreprises à Wanamet. C'est un collègue qui le fait. Nous faisons des conférences dans les universités. Nous travaillons bénévolement, parce qu'une fois que peut-être moi j'ai pris ma retraite de l'université, je me consacre beaucoup plus au centre, et je crois que comme vous l'avez vu, c'est-à-dire il y a une énorme circulation de gens qui viennent, donc il y a la nécessité de transmettre. On arrive à l'âge où il faut transmettre ce que vous avez appris, et c'est peut-être notre rôle. Ce n'est plus nous qui sommes super actifs, mais nous sommes là pour transmettre ce que nous avons appris et préserver cette mémoire, parce que il y a toujours des risques que les bibliothèques, parce qu'il y a eu des bibliothèques brûlées, des bibliothèques pillées, donc quelque part il faut que ces connaissances accumulées sur Haïti soient préservées, que ce qui est arrivé à Alexandrie dans le passé ne nous arrive pas à nous, que nous avons un travail de préserver notre mémoire. Et donc on invite tous les écrivains, tous les historiens, ceux qui écrivent sur Haïti, de déposer au moins un livre à la bibliothèque du Sidika, de nous l'envoyer, ou de demander à vos éditeurs, si vous avez un éditeur, de nous envoyer au moins un livre, parce que d'abord, ça permettra à des jeunes et à d'autres d'étudier votre œuvre, à ceux qui ne peuvent pas payer d'avoir accès à ces œuvres.
En fait, à ce moment-là, en Haïti, c'est difficile, le travail que vous faites là. On peut dire que ça a vraiment son sens, puisque les bibliothèques sont fermées pour la plupart, surtout dans la capitale haïtienne. C'est dire que c'est un travail très important que vous faites à Montréal. On pourrait vous demander pourquoi Montréal?
Bon, d'abord parce que j'y vivais. Je vivais à Montréal, moi j'étais en exil à Montréal, mais surtout aussi parce que je crois qu'à Montréal, il y a les compétences nécessaires pour le faire. On a des conservateurs, on a des archivistes, et qui font ce travail bénévolement, parce que c'est bénévolement que nous faisons tout ce travail-là, parce que nous croyons que c'est nécessaire, et que dans une communauté de 200 000 personnes, qui est la communauté haïtienne de Montréal et du Canada, eh bien, qu'il fallait nécessairement créer un espace pour qu'il y ait des débats publics, pour que aussi, je dirais, la mémoire haïtienne soit préservée.
Le syndicat, c'est beaucoup de distinctions. J'ai vu sur les murs, il y a beaucoup de plaques d'honneur pendant ces 41 ans.
Bon, oui, parce qu'effectivement, c'est le travail reconnu par l'État, mais aussi ce que je disais à quelqu'un, ce qui me fait le plus plaisir, ce n'est pas le fait qu'on ait reçu l'ordre de Montréal, qu'on ait reçu des distinctions universitaires ou autres. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand on reçoit une distinction d'un organisme communautaire. Parce que vous êtes reconnu par les siens, vous êtes reconnu par les vôtres, et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que vous faites un travail qui est d'abord destiné aux vôtres. C'est ainsi, par exemple, on avait publié un petit livre, 30 ans de présence caribéenne, qu'on a distribué gratuitement dans tous les centres communautaires, parce que les militants, les organismes communautaires, les gens n'ont pas le temps, peut-être, pour lire tous les livres. Donc on a fait des petits livres pour synthétiser cette présence, et eux, ils ont reçu ce livre qui pouvait leur permettre de mieux fonctionner. C'est ainsi que j'avais fait ce petit livre sur la brève histoire des communautés noires, en anglais et en français. On a des histoires sur le premier, je dirais, sportif noir, Jackie Robinson, qui a rompu la barrière du racisme en tant que joueur de baseball. Et c'est un petit livre qu'on fait en français et en anglais pour des jeunes. Donc, pour nous, c'est important. D'ailleurs, un des quartiers les populaires les plus importants de Montréal, Montréal-Nord, la ville de Montréal a décidé que on serait partie prenante d'une nouvelle bibliothèque qu'il crée pour 2025 et on fera de la médiation culturelle. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas déplacer nos archives, mais on sera aussi à Montréal-Nord pour faire ce travail de médiation culturelle. D'ailleurs, on y va souvent, faisant des expositions, parce qu'on pense non pas que les gens doivent simplement venir, mais nous allons trouver les gens aussi, et surtout les jeunes.
On rappelle que le syndicat a un site internet, syndicat.com, sur lequel on peut retrouver toute cette documentation, mais aussi on peut s'inscrire et puis prendre rendez-vous pour discuter.
Il y a nos films, sur Mano Charlemagne, sur l'histoire de la musique haïtienne, sur Duvalier, sur l'Église catholique. Tous ces films sont disponibles gratuitement.
Merci Franz Voltaire, c'était un plaisir.
Merci à toi.
Pour qui yo pas prendre pour rien, pour pas bon yo dit c'est haïtien. C'est pas vraiment quoi yo vle yon bagay, nous gagnons. Pour qui c'est yo cap dirigeant, pour qui a marché sous dignité. Louvri jen gade li le litan pou nou frape bien. Chaudière prête pa bouilli pois sèche, mais sans gaz allumette pa lumen bobèche. An ale na fè lak san ganyen, pou pitit nou ka fier de nou demain. Pou nou leve nan la nation, que haïtien, c'est bon bagage.
Voilà une belle discussion qui touche à sa fin. C'était un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette édition de Cause Kilti dans le cadre de notre tournée à Montréal. Merci à tous nos partenaires, l'Institut français en Haïti, l'Ambassade de France en Haïti et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Merci à notre réalisateur Stéphane Chéry. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter Cause Kilti en podcast sur le site www.rfi.fr, mais aussi sur l'application RFI Pure Radio que je vous invite à installer dès maintenant sur votre smartphone. Vous pouvez écouter également l'actualité générale en Haïti sur RFI. Ça se passe du lundi au vendredi à 9h10 avec Anne Kantner dans le journal d'Haïti et des Amériques. Moi-même, je suis Ritzamarom Zetren. J'ai pris
énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.